Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radion. Comme chaque samedi à pareille heure, c'est votre émission littéraire. Une heure que nous allons passer avec un nouvel invité que je vous présente sans tarder. Bonjour Bernard Moreau-Gaudry.
Bonjour Yannick, bonjour à vous tous.
Alors Bernard Moreau-Gaudry, vous êtes historien d'art et sculpteur.
Oui.
Parce que vous êtes aussi un artiste bien connu dans le pays autunois. Vous habitez Autun avec votre épouse Luce, qui d'ailleurs est non loin de nous. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans. Alors, il faut dire aussi, Bernard Moreau-Gaudry, que vous avez beaucoup écrit sur l'art.
Oui.
Hein? Alors, premier écrit en 1978, Des couleurs et des mots. Je ne vais pas donner tous les titres, mais vous êtes un passionné, connaisseur du sujet. Je me rappelle de Sculpteurs et plasticiens, Sculpture en Morvan, Académie du Morvan en 2017. Vous êtes aussi nouvelliste. Mmh. Et puis, on vous connaît comme auteur de romans. Alors nous, Bernard, nous nous étions rencontrés à une fête du livre d'Autun il y a de nombreuses années maintenant pour le tome 1 intitulé La Tentation d'Ève, qui d'ailleurs a obtenu le prix du Morvan, juste récompense à mes yeux. C'était il y a 10 ans.
Il y a 10 ans.
Oui. Et puis, l'année dernière, vous avez poursuivi cette tentation d'Ève. C'est une sorte de tome 2. Peut-être oui, y aura-t-il un tome 3, Bernard Moreau-Gaudry?
Je n'en sais rien. J'avais pas prévu de faire un tome 2 et les gens, mes lecteurs m'ont réclamé. Je voulais pas. Et puis à la fin, je me suis décidé, voilà, avec beaucoup de plaisir.
Alors le livre qui nous occupe en cette fin de matinée sur Radion a pour titre « L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gisle Bertus, la tentation d'Ève II », donc qui satisfait la curiosité et les goûts d'un public amateur d'histoire, de civilisation médiévale. C'est un roman historique, c'est un genre, Bernard Moreau-Gaudry, où vous êtes extrêmement à l'aise. C'est un univers que vous semblez maîtriser et bien connaître.
J'aime bien le roman historique, ça permet de se plonger dans un autre univers, moi j'adore ça.
Votre roman, L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gisle Bertus, débute au moment de la Toussaint 1131, donc nous sommes au début du XIIe siècle, c'est le début. Le XIIe siècle, c'est un siècle, alors peut-être pas tout à fait en 1131, mais c'est un siècle qui va voir le royaume de France se consolider, s'unifier un peu politiquement, même si c'est pas encore tout à fait cela, parce qu'il faut imaginer un roi de France, mais il y a tout de même des vassaux, querelleurs, il y a des brigands, et puis il y a tout de même une église catholique assez puissante, et qui est représenté essentiellement à travers votre brillant personnage d'Abélard. Bernard, un petit mot peut-être sur la période, donc 1131, et le roman en fait s'écoule sur 9 mois.
Oui.
Pourquoi ce choix de cette date? Pourquoi pas un Moyen-Âge plus tardif?
Parce que je m'étais intéressé au début à Gisle Bertus et à Abélard, ça se passait en 1131. Et comme c'est un tome 2, je suis parti de la même date. Quoi.
C'est une contrainte d'écrire un roman historique?
La contrainte, c'est de ne pas raconter des bêtises. On peut imaginer tout ce qu'on veut, on peut mettre des personnages, mais il faut que le contexte soit juste. On n'a pas le droit de je crois qu'on n'a pas le droit de se tromper, surtout à notre époque où on a tous les éléments historiques, on connaît bien les choses. Il faut respecter l'histoire. On peut Dumas disait on peut lui faire un enfant à l'histoire, mais faut quand même la respecter. Donc tout ce qui est contexte, les personnages qui apparaissent mais qui sont extérieurs à l'intrigue principale, tout ça c'est juste, c'est exact, ça a été étudié.
Alors pour nos auditrices et auditeurs, en 1131, c'est le roi Louis VI le Gros, qui effectivement règne jusqu'à sa mort en 1137. Ensuite, c'est son fils qui va lui succéder, Louis VII, qui épousera la fameuse Aliénor d'Aquitaine, et qui d'ailleurs, ce fils de Louis VI le Gros, va conduire la deuxième croisade. Parce que là, finalement, en 1131, il y a eu une première croisade. Il y a déjà eu la première croisade, hein, de 1096 à 1099. Et évidemment, Bernard Moreau-Gaudry, dans le titre de votre roman historique, il y a deux noms, Abélard et Gisle Bertus. Alors, il ne me semble pas superflu que vous nous rappeliez, si besoin, qui est Abélard.
Alors, Abélard, c'était un des grands personnages du Moyen-Âge. C'était un sophiste, un théologien, un philosophe qui a connu une vie excessivement mouvementée parce que, il a eu des ennuis avec l'Église parce qu'il voulait rationaliser la religion et il a été accusé plus ou moins d'hérésie. Un de ses livres a été brûlé en 1121, il a eu des tas de problèmes et il est célèbre aussi par son histoire d'amour avec la fameuse Héloïse, et il a été puni, châtré par l'oncle d'Héloïse parce qu'il l'avait séduite. Voilà. C'est un des grands personnages romanesques du Moyen-Âge.
Mais le fond est historique. L'homme a réellement existé.
L'homme a absolument existé. Tout ce que je raconte est vrai. Alors, en revanche, à cette période-là, il y a un trou. Abélard était en fuite. En fait, on ne sait rien historiquement. Donc, je me suis régalé en inventant des aventures à cette époque-là. Mais tout ce que je raconte est vrai.
Alors, au moment où s'ouvre votre roman, au moment de la Toussaint de l'année 1131, on retrouve donc notre Pierre Abélard qui est en fuite, en fait, le pauvre. Il a déjà échappé à un moine fanatique un peu fou qui voulait l'assassiner. Et pour lui, il s'agit à la fois d'assurer sa propre protection, il s'agit aussi de retrouver un petit peu de crédit peut-être auprès du pape, parce que il y a par exemple Bernard de Clairvaux lui a fait quand même grand tort.
On dit qu'il a ennemi,
son ennemi. Hein, il a Bernard de Clairvaux qui est né d'ailleurs à côté de Dijon.
Oui, oui.
Bernard de Clairvaux qui prêchera la croisade en 1145. Mais Bernard de Clairvaux a pas mal médit d'Abélard. Et puis il faut dire qu'Abélard, pourquoi lui en a-t-on voulu d'avoir aimé Héloïse ? Parce que c'était un religieux ?
Non, il n'était pas religieux à cette époque-là.
C'est même un laïc, en fait.
Oui, c'était un laïc au départ. C'était un laïc, bon, qui travaillait avec l'Église, parce qu'on ne pouvait pas enseigner hors de l'Église. Les universités étaient contrôlées par l'Église, mais c'était un laïc. Et c'est, après avoir été châtré, il a demandé à Héloïse de rentrer dans les ordres, et lui-même est rentré dans les ordres.
Alors, il est châtré, il a 39 ans, hein,
oui,
émasculé,
oui, oui,
à 39
oui,
ans. Héloïse était très jeune, elle avait 16 ans.
Oui, elle était plus jeune, oui, 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 oui.
Donc, finalement, c'est une histoire d'amour interdite, là aussi, il y a un interdit.
C'est une histoire d'amour interdite, et c'est pour ça que c'est un personnage un peu fascinant. Et alors, à cette époque-là, au début du roman, donc il est en fuite. Et moi, je l'ai présenté un peu comme une rockstar déchue, quelqu'un qui a été ultra célèbre, ultra connu, parce qu'en même temps, il écrivait des poèmes, des chansons d'amour en latin, hein, c'était un Goliard, il écrivait ça en latin, des chansons d'amour pour Héloïse et sur Héloïse, qui étaient excessivement populaires auprès des étudiants parisiens. C'était un personnage célèbre, et là, il est en fuite. Il a peur d'être assassiné.
Est-ce qu'on dispose aujourd'hui encore des poèmes profanes d'Abélard, poèmes qui célèbrent la beauté d'Héloïse ?
Non, on n'a plus rien. On a Héloïse raconte, et elle dit elle-même que Abélard écrivait des poèmes, des poèmes mis en chanson par lui, qui étaient chantés par les étudiants, et que les autres femmes étaient jalouses de ces poèmes. On sait qu'il a écrit des poèmes d'amour, mais ça a disparu. Je crois qu'on a voulu effacer complètement cela.
C'est Bernard Moreau-Gaudry qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. On va marquer un premier intermède musical. Je rappelle que nous nous penchons sur votre dernier roman, Bernard Moreau-Gaudry, L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gis Lebertus, paru l'an dernier aux éditions du Sculpteur. On retrouve vos personnages dans leur chevauchée, puisqu'en fait, point de départ, c'est Autun, ville que vous connaissez bien, puisque vous y habitez. On se retrouve avec notre invité juste après la pause musicale que nous vous proposons. L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gis Lebertus, La tentation d'Ève, tome 2, c'est le titre du roman de notre invité Bernard Moreau-Gaudry qui nous accompagne jusqu'à midi dans l'émission littéraire de Radion. Bernard, juste avant, vous avez largement rappelé qui était ce théologien Abélard, sorte de un réprouvé, un peu comme tous les personnages d'ailleurs que nous allons découvrir avec vous. C'est un réprouvé, une forme de maudit, condamné maudit, par l'Église.
Condamné, je vous dis, on a brûlé ses œuvres, il a fait de la prison, il était en danger à ce moment-là, il se sentait vraiment, vraiment en danger.
Et c'est effectivement au concile de Soissons en 1121 que le sort d'Abélard est un peu, j'allais dire, scellé. D'ailleurs, à propos d'Abélard, parce que c'est un homme qui nous inspire une certaine pitié, vous écrivez, Bernard, je lis le passage, c'est page 106. « Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait étrangement libre. Toute sa vie, il avait fui. Il avait fui Paris. » pour échapper à la vindicte de Guillaume de Champeaux, il avait fui pour échapper à la honte de sa castration, il avait fui Saint-Denis pour faire cesser les persécutions qui le harcelaient, il avait fui le domaine royal pour se réfugier en Champagne, il avait fui les villes et les châteaux pour trouver la paix dans la solitude, il avait fui les monastères pour vivre en anachorète au Paraclet. Il avait dû fuir même le Paraclet où le succès rencontré auprès de disciples admiratifs avait suscité jalousies et nouvelles persécutions. Il avait fui au bout du monde, au fin fond de la Bretagne, pour devenir abbé de Saint-Gildas de Ruys. Il avait fui enfin cette abbaye dont les moines indisciplinés et déçus avaient cherché et cherchaient toujours à l'assassiner. Voilà, c'est la situation d'Abélard au début de ce roman dont l'action, je le rappelle, débute au mois de novembre 1131. Alors, dans le titre de votre roman, Bernard, il y a un personnage très proche, finalement, de cette belle ville d'Autun en Saône-et-Loire. Autun, ville d'art au patrimoine multiple, d'ailleurs, parce que il y a la cité éduenne d'Autun, c'est effectivement les vestiges romains, gallo-romains, la cathédrale Saint-Lazare, qui fut aussi quand même un point d'arrivée pour de nombreux pèlerins. Alors, qui est Gisle Bertus que l'on rencontrait déjà dans le tome 1, La Tentation d'Ève, il y a 10 ans maintenant?
Alors, Gisle Bertus, c'est un sculpteur, du moins on le suppose. Sur le tympan de la cathédrale d'Autun, il y a marqué, sous les pieds du grand Christ en gloire, il y a marqué Gisle Bertus hoc fecit. C'est Gisle Bert qui a fait. Donc il y avait deux solutions, on peut penser que c'est le commanditaire, certains historiens le disent, mais la plupart pensent que c'est le nom de l'artiste qui a exécuté les sculptures de la cathédrale d'Autun, qui sont parmi les plus belles sculptures du monde. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la notion d'artiste n'existait pas, les artistes étaient des artisans. Mais là,
d'où l'anonymat, en fait.
D'où l'anonymat. Ils sont presque tous anonymes. On en connaît 5, 6, 7 peut-être. Voilà. 5, 6, 7 qui ont signé. Mais Gisle Bertus, c'était un personnage absolument extraordinaire. Donc, un sculpteur, mais aussi certainement un intellectuel. Parce que pour sculpter les œuvres, il fallait aussi connaître l'histoire sainte, un peu de théologie, et puis savoir imaginer des scènes, etc. Et on pense que ce personnage-là a pris... dans son travail à Autun, une importance énorme, plus importante que les commanditaires et plus importante que le maître d'œuvre.
Alors, dans votre roman, Bernard, vous dites que les parents de Gisle Bertus le destinaient à devenir moine, qu'il aurait étudié à Cluny. Ça, ce sont des suppositions. On sait assez peu de choses sur l'identité de ce Gisle Bertus, finalement.
Rien. On n'a rien du tout. Là, il n'y a aucune trace, donc j'ai pu imaginer comme je voulais, mais on a quand même... Bon, on sait qu'il est passé à Vézelay, on sait qu'il est passé à Avallon, on a des traces de son travail, et il a été influencé par Cluny, donc j'ai imaginé qu'il avait passé sa jeunesse à Cluny. Les fils de famille, les cadets... n'étaient pas des guerriers, on les vouait à l'église, et en fait lui aussi c'est un déclassé, parce que devenir sculpteur alors qu'on aurait pu être abbé, c'était pas terrible, quoi.
Donc la trace tangible que l'on a, j'allais dire, en France, c'est la cathédrale d'Autun avec Gisle Bertus hoc fecit.
Oui.
C'est la seule trace matérielle gravée dans la pierre.
C'est la seule. On n'a rien d'autre. Mais rien, absolument rien. Et j'ai consulté toutes les archives, y compris les archives épiscopales, qui sont très, très complètes. Manque de chance, pendant 4 ans, 5 ans, on n'a rien. On a un trou total.
Et la société, alors peut-être y a-t-il une société d'études, je crois qu'il y en a une.
Oui.
À Autun, dans des travaux plus anciens.
Non, personne à trouver, on n'a rien. On n'a rien du tout.
D'où, effectivement, un personnage fascinant pour à la fois le sculpteur que vous êtes, Bernard Moreau-Gaudry, et le romancier qui se plonge dans ce Moyen-Âge.
Oui, parce que c'est d'une part parce qu'on a son nom, c'est le plus connu des artistes du Moyen-Âge, et puis c'est quand même un travail absolument exceptionnel. Les enfants au Japon... Il y a quelques pages seulement sur l'Europe au Moyen Âge et l'art. Eh bien, l'art est représenté par la fameuse tentation d'Ève de Gisèle Bertus.
Alors, un petit mot, Bernard, sur la tentation d'Ève. Qu'en subsiste-t-il à Autun ?
Il en subsiste la moitié. C'était une représentation de la tentation d'Ève sur le tympan latéral de la cathédrale qui a été détruit à la fin du XVIIIe siècle par les chanoines qui trouvaient que c'était pas beau, que c'était scandaleux sans doute. Et il en reste une partie qui est Ève. Et Ève est couchée, allongée, et elle tend le bras en arrière et elle cueille, sans avoir l'air d'y toucher, le fruit défendu. C'est une œuvre absolument extraordinaire, très touchante. Voilà, c'est...
Donc, on n'a qu'une partie de cette sculpture.
On n'a qu'une partie. Il y avait en face, il y avait Adam, il n'en reste rien, qui devait être couché lui aussi. Et il nous reste la main du diable, ou du moins la griffe du diable, qui tord le rameau sur lequel est suspendu le fruit défendu pour que le fruit défendu tombe dans la paume de la main de Ève.
Et donc une partie de la sculpture est représentée sur la couverture de votre
oui,
roman.
Oui, c'est une œuvre géniale, quoi.
Alors, Gisèle Bertus, on va pas raconter. Bien sûr, Gisèle Bertus a rencontré à Autun Abélard, ils se connaissent déjà du tome 1. Et puis, il y a une autre jeune et jolie créature, elle aussi, une forme de tentatrice, une femelle dans ses aspects parfois un peu polissons, votre Mélisande.
Oui, mais Mélisande, déjà, qui est un peu un nom de sorcière, un nom merveilleux, qui est une femme étrange, qui est une artiste, elle aussi, elle peint. Elle était au service de Gisèle Bertus. Son père était lui-même un peintre qui peignait les cathédrales, parce que les cathédrales, à cette époque-là, n'étaient pas comme maintenant. Elles étaient recouvertes complètement de...
La pierre était colorée.
La pierre était peinte. Bon, il n'en reste pratiquement rien, parce que la qualité des peintures de l'époque a fait que tout s'est délayé. Alors on a encore quelques fresques à l'intérieur de certaines églises, en particulier celles qui étaient sombres, ce qui les a protégées, mais à l'extérieur tout a disparu.
Il faut imaginer donc les parvis des cathédrales peintes,
avec des couleurs vives, des couleurs conventionnelles pour les corps. On peignait pas de la même façon un corps d'homme et un corps de femme. Voilà, c'était avec des couleurs violentes, hein, très très vives.
Alors, ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il s'agit de raconter l'Évangile à un peuple, alors qui n'a pas accès au latin, qui est totalement illettré, analphabète. Il y a déjà une communication de l'Église, on ne parlera pas de propagande, mais d'enseignement à travers les images, la sculpture, les vitraux.
Il y a l'enseignement à travers les images. Le peuple est complètement illettré, les élites parlent latin, le peuple parle un bas latin, c'est le début de la langue d'oeil, c'est pas encore complètement formé, et les gens ne savent pas lire du tout. Et il faut absolument enseigner ce peuple, et on les traîne devant les églises où il y a tout. Il y a des sculptures, il y a des peintures qui représentent des scènes de la Bible, des scènes théologiques, et ça sert à l'enseignement.
Mais ce qui est fascinant, c'est que ce petit peuple, inculte, grossier, illettré, d'ailleurs Abélard, avec ses amis, il se reconvertit comme un peu chef d'une troupe de troubadours.
Exactement,
qui,
oui.
Hein, pour, sous des déguisements, à la fois apporter distraction, mais il y a aussi un enseignement religieux, entretenir la foi et l'attraction des foules pour le Christ, la passion du Christ.
Oui, parce que les premières pièces de théâtre, les premières scènes, en fait, c'était religieux. Ça se faisait sur le parvis des églises.
Les mystères, les fameux mystères.
Les fameux mystères, oui.
Ou des spectacles théâtrôt, mais c'est un petit peu plus tard, je crois. Là, c'est un peu trop tôt. Votre roman, 1131, c'est prématuré.
Non, non, c'est il y a que des mystères, il y a que des, c'est, l'Église dominait vraiment absolument tout.
Et on voit sa richesse et sa puissance parce que à travers le nombre d'abbayes qui dépendent, alors soit de Cluny, soit de Cîteaux, il faut dire que Abélard, lui, est un bénédictin. Il y a différents ordres religieux. Alors là aussi, c'est pas tellement compliqué, mais on voit bien que les ordres, chaque ordre religieux a une relation particulière avec la papauté et alors avec l'autorité royale. Là, c'est complexe tout de même.
Ah oui, c'est très complexe. Vous parliez des relations entre les moines et la Cluny, par exemple. Donc,
alors Cluny, qui était on est au sud de la Bourgogne, voilà. On est en Saône-et-Loire, voilà. C'est votre département.
Les bénédictins, plusieurs abbés de Cluny ont été papes. Hein. Les ordres religieux avaient une puissance absolument, absolument extraordinaire.
Alors territoriale, agricole,
tout, hein, voilà,
intellectuelle aussi, artistique.
Intellectuelle, agricole, tout. La vigne, par exemple, ce sont les moines qui ont poussé à la culture de la vigne parce qu'ils avaient besoin du vin pour la cérémonie de l'Eucharistie. Ils ont fait cultiver le vin partout, et si on a du bon vin maintenant en Bourgogne, c'est grâce aux moines, aussi bien ceux de Cîteaux que les bénédictins.
Pensons à Saint Vincent, le patron des vignerons, par exemple.
Hein.
Bernard, là, on rentre. Alors, sans rentrer de manière trop complexe, mais il y a des différences dans l'approche artistique entre Cluny, les bénédictins, et Cîteaux. On pourrait dire que l'ordre de Cîteaux est un ordre qui, en fait, ne veut pas trop de décor, pas de faste, humilité, sobriété, alors que Cluny est plus dans un certain faste.
Absolument.
Je vous laisse
sous-peser et nuancer. C'est complètement différent, oui. C'est, et au niveau artistique, ça se voit dans leur construction, les constructions qui dépendent de Clairvaux, de Cîteaux, c'est l'élégance de l'architecture, mais il n'y a que ça. Alors que chez les Clunisiens, chez les Bénédictins, il y a des sculptures, il y a des sépins avec des couleurs vives, c'est plus du tout le même monde. Et il y a une opposition très violente. Et ils sont les Bénédictins sont plus ouverts, et les Cisterciens sont plus austères, disons.
Oui. D'ailleurs, la règle bénédictine, les moines sont, on les appelle les moines noirs, de par leur habit, alors que les cisterciens, qui donc obéissent à la règle de Saint Benoît, eux sont les moines blancs.
Voilà, hein. Oui.
Moine blanc, moine noir, en tout cas peu importe, Bernard Moreau-Gaudry est bien avec nous en cette fin de matinée sur Radion pour nous parler avec son savoir, sa connaissance, son érudition de ce Moyen-Âge, 1131-1132, les années où se situe l'action de son dernier roman, dont je rappelle le titre, « L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gislebertus ». Nous empruntons le chemin d'une pause musicale et nous chevauchons juste après, aux côtés d'Abélard, Gislebertus, Mélisande. Et puis il y a un autre personnage, on en parlera juste après, parce qu'il est pittoresque, haut en couleur, aussi fascinant que monstrueux. Nous revenons dans quelques minutes.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un
Wagon Livre, votre émission littéraire.
L'étrange pèlerinage d'Abélard Régis Le Bertus, c'est le titre du dernier roman de notre invité en cette fin de matinée sur votre radio locale, c'est Bernard Moreau-Gaudry, que je remercie d'être venu d'Autun avec son épouse Luce devant nos micros. Nous parlions juste avant la pause musicale donc de la distinction entre deux ordres prestigieux important dans le royaume de France au XIIe siècle et par la suite, hein, Cluny. Alors Cluny, rappelons, c'est la Saône-et-Loire, c'est le sud de la Bourgogne, avec d'autres. Pareil, il y a une sorte d'abbaye mère qui donne naissance à d'autres abbayes. Alors dans la Nièvre, il y a eu la Charité-sur-Loire qui était aussi aînée de Cluny.
Fille aînée de Cluny. Après, il y a Souvigny. Il y en a cinq. Il y a cinq filles de Cluny. Et après, il y a 2000 maisons, ce qu'ils appellent des maisons, qui sont des filiales, en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose d'absolument gigantesque.
Un vrai pouvoir économique, commercial, d'accueil. On voit bien aussi que vos héros vont, grâce à Abélard, ils vont dans des maisons amies où ils sont hébergés, reçus, nourris.
Oui, et en même temps, il y a des luttes entre ces moines et les petits seigneurs locaux qui chacun veut contrôler, par exemple, la route des pèlerinages. Et il y a des disputes parfois sanglantes. Mais la grande puissance, c'est effectivement les moines.
Alors, on a parlé de Citeaux, ça c'est en Côte d'Or, non loin de Dijon. Et toujours du côté des Cisterciens, il y a en Champagne, et vous en avez prononcé le nom tout à l'heure, c'est Clairvaux aussi, prestigieuse. Cluny, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Cluny. Il faut, Bernard Moreau-Gaudry, se représenter ce qu'a été cette illustre abbaye bénédictine, qui a été fondée en 909 et qui, d'ailleurs, au moment où vos personnages y passent, est à son apogée, en fait.
C'est à son apogée avec un moine, Pierre le Vénérable, qui est un personnage absolument extraordinaire lui aussi, et qui a, au niveau économique, a rebâti, a redonné une puissance énorme aux moines à cette époque-là.
Et puis, ce qui alors transparaît beaucoup dans votre roman médiéval, Bernard, c'est aussi cette effervescence intellectuelle et culturelle. Ils savent écrire, ils traduisent, il y a une puissance intellectuelle.
Ah, il y a une puissance énorme. Hein. Pierre le Vénérable va chercher à récupérer le Coran pour le traduire, et le traduire pour le combattre. Ils ont des, par exemple à Cluny, il y avait une bibliothèque, et alors ça paraît ridicule à notre époque, mais une bibliothèque qui était extraordinaire parce qu'il y avait 270 manuscrits.
Ouais, manuscrits.
Manuscrits, on recopiait les manuscrits, il n'y avait pas de livres imprimés, donc ça prenait du temps, il fallait se les procurer, et en particulier, ils avaient des manuscrits d'auteurs grecs et latins très importants, plus les pères de l'Église,
Saint-Augustin, par exemple.
Voilà, Saint-Augustin, Cassien, Saint-Jérôme, Saint-Jérôme dont Abélard s'inspire beaucoup, une extraordinaire bibliothèque et aussi une bibliothèque de livres de musique. Voilà, c'est ce qui était assez rare encore à l'époque.
Alors je tiens à dire aussi que ce qui est particulièrement appréciable dans votre roman, Bernard Moreau-Gaudry, ce sont les notes qui nous aident, parce que c'est un univers et une civilisation maintenant un peu éloignée de notre modernité, mais ce qui est vraiment très agréable, bienvenu et pertinent, ce sont les notes de bas de page qui nous permettent parfois, si besoin, de saisir le sens d'un terme qui est un terme, j'allais dire, civilisationnel.
C'est un monde qui est complètement différent du nôtre. Nous, on a un monde qui est quand même, même si en ce moment on parle de guerre en Europe, on a un monde rationnel, ou qui se veut rationnel, alors que le monde du Moyen-Âge est complètement envahi de merveilleux. Les hommes sont persuadés qu'il y a autour leur ange gardien, qu'il y a les esprits des morts, qu'il y a les fantômes, que les saints qui sont décédés des les protège, qui ils pensent qu'il y a des monstres. On ne sort pas trop la nuit parce que c'est dangereux, il y a des êtres bizarres. On trouve sur les cathédrales un certain nombre de monstres. Ils sont persuadés qu'ils existent, des griffons, des choses comme ça, des tarasques, enfin c'est un monde totalement baigné de merveilleux, d'irrationnel, de fantastique et de religion.
Peut-on dire aussi que c'est un héritage des monstres, des métamorphoses de certains personnages venus de l'Antiquité gréco-latine?
Absolument.
Oui.
Absolument, et parfois même plus loin. Il y a des disputes entre mes personnages parce que, par exemple, les édifices sacrés chrétiens souvent ont été construits là où il y avait des édifices religieux plus anciens, romains ou gaulois, ou même voilà, c'est
Mélisande aime bien rappeler aussi
un de mes personnages, Mélisande, elle voit des traces des dieux gaulois partout, alors
elle est une sorte, Bernard Morgondry, Mélisande, votre personnage féminin très joli, alors elle est rousse en plus, donc forcément
elle cache ses cheveux parce que déjà, on ne montrait pas ses cheveux à l'époque, mais en plus, elle était accusée de sorcellerie à cause de ses cheveux. Donc,
alors, il faut dire que dans le tome 1, Mélisande, alors, elle a eu vraiment maille à partir. Elle a été accusée de fabriquer de la fausse monnaie,
elle a été accusée
de sorcellerie. Heureusement, elle a été, j'allais dire, graciée et mise à l'écart et très éloignée de toutes ces accusations. Mais Mélisande, elle me semble être la synthèse entre un Moyen-Âge païen. Parce qu'elle-même, vous l'avez dit, elle est imagier ou coloriste.
Oui, oui, oui.
Donc elle a une culture religieuse indéniable et elle met son art au service de l'Église. Mais étonnamment, elle reste attachée aux forces telluriques, au culte païen. C'est très intéressant d'ailleurs, cette femme. Qui est polissonne en plus. Alors il y a un moment, Bernard, alors, j'ai été très surpris. Elle prend un pinceau qu'elle frotte à son entrejambe juste avant de l'utiliser. Pourquoi donc ?
Eh bien, pour faire une trace de séduction en pensant que ça lui permettra de séduire l'homme qu'elle aime, c'est-à-dire Gisle Bertus, qui l'aime bien mais qui ne l'aime pas.
Eh oui, parce qu'en fait, chacun court après un amour. Alors, Abélard court peut-être moins, mais disons que par nostalgie, il court après cet amour d'Héloïse.
Ah, il pense toujours à Héloïse.
Gisle Bertus, alors lui, a aimé une femme qui est mariée à un puissant seigneur qui d'ailleurs fait des voyages en direction des pays qui abritent le tombeau du Christ.
Oui.
Mais c'est aussi plutôt plus par attitude vénale, en fait, s'enrichir par des trafics maritimes et faire du... Je crois ramener des épices, notamment.
Des épices, c'est ça.
Oui. Et puis, on a notre Mélisande qui court après le sculpteur Gisle Bertus, à qui il arrive aussi une chose terrible, mais on ne va pas trop en dire, quand même, parce que...
Mélisande, à mon avis, c'est le personnage le plus fort du livre, enfin, du moins, elle est plus virile que les hommes, je pense. Elle est très excessivement énergique, elle est volontaire, et c'est ce qu'elle veut, elle prend des risques énormes, elle est intrépide, et elle est mystérieuse, et c'est un personnage...
C'est vrai, Bernard, vous avez raison. Et elle n'hésite pas aussi parfois à affronter sur le plan même idéologique ou religieux.
Absolument.
Elle n'hésite pas à faire face à Abélard,
qui pourtant
a quand même un titre d'évêque. Enfin, c'est une haute personnalité au moment du roman.
Mais j'ai voulu montrer qu'à cette époque-là, les femmes étaient beaucoup plus libres que ce qu'on pense. Au Moyen-Âge, les femmes étaient moins enfermées qu'elles le seront plus tard au XVIIe siècle, par exemple. Elles avaient une certaine liberté, un certain pouvoir. Je ne dis pas qu'elles étaient complètement libres, mais il y a eu beaucoup de femmes indépendantes.
Pourtant, Mélisande est contrainte de se travestir pour pouvoir accéder au chantier.
Absolument. Absolument.
Il n'y avait aucune femme n'était admise sur les chantiers au Moyen-Âge.
Si, il y a eu des femmes sur les chantiers. Mais moi, je l'ai fait se travestir pour travailler à la chapelle des moines de Berzé. Et là, c'est des moines, donc on ne peut pas mettre une femme au milieu des moines. Donc elle se travestit en homme pour pouvoir gagner sa vie.
Et puis c'est très amusant, puisque au moment où Abélard et Gisle Bertus arrivent à Berzé, donc c'est pas très loin de Cluny, c'est une sorte
c'est
maison
tout, près de Cluny,
tout proche de
tout
Cluny,
près de
Cluny, mais il s'agit d'être discret pour cacher Abélard. Et il y a cette scène de retrouvailles nocturnes entre Gisle Bertus et Mélisande, travestie en garçon imagier. Et il y a un moine qui les surprend et qui croit qu'il y a une scène d'homosexualité.
Oui. C'est amusant.
Je voudrais tout de même revenir sur ce monde du Moyen-Âge. Vous en avez déjà beaucoup parlé, Bernard, en parlant des croyances à la fois païennes, croyances au surnaturel, aux forces telluriques, aux saints, bien sûr. Il ne faut pas oublier que vos personnages, et le titre, le terme est dans le titre de votre roman, c'est l'étrange pèlerinage. Et le terme de pèlerinage renvoie aussi au fait que les pèlerins vont sur le chemin à la rencontre de ceux qui ont fait des miracles. Hein. Saint Jacques de Compostelle, les saints sont alors très nombreux, je ne vais pas tous les mentionner, mais il y a Saint Agathon. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié. Saint Agathon qui a conservé durant 3 ans une pierre dans la bouche pour apprendre à se taire. Peut-être que certains hommes politiques ou certains journalistes à l'heure actuelle devraient peut-être imiter Saint Agathon.
Ah oui. Il y a une histoire sur Saint Agathon. Il ne se disputait pas et il avait un de ses amis et ils disent il faudrait quand même qu'on apprenne à se disputer pour être comme les autres. Et alors ils mettent une brique entre deux et puis Agathon dit à son ami eh bien je vais dire que la brique est à moi et toi tu vas dire qu'elle est à toi. Donc il dit ça et puis Agathon dit eh bien puis elle est à toi, non, prends-la, garde-la.
Les saints sont très nombreux. L'église cathédrale Saint-Lazare à Autun, il y a la Saint-Lade, la Sainte-Barbe, il y a Saint-Michel qui terrasse le dragon. Et puis, nos personnages. Alors, il faut bien voir que ce pèlerinage, il va du nord au sud, puisqu'en fait, ils les conduisent, on va dire, point de départ à la Bourgogne, on est d'accord, Bernard ?
Oui.
Cluny, Sillon Rodanien, et puis ils arrivent dans le Gard, notamment à Saint-Gilles, dans
Saint-Gilles
le Gard.
Saint-Gilles-le-Gard, oui.
Et c'est là que, notre Gisle Bertus doit peut-être, j'allais dire au revoir au métier de sculpteur, mais je n'en dis pas plus. Et puis, vos personnages vont aller jusqu'en Espagne. Une Espagne qui fut, en ce début du XIIe siècle, presque une terre où s'affrontaient les Sarrasins, les musulmans, avec des forces catholiques,
ben oui,
des moines soldats catholiques.
Ben y avait un... c'était des croisés, c'est la même chose. Bon, on parle beaucoup des croisés vers Jérusalem, mais il y a aussi la reconquête de l'Espagne. Et à ce moment-là, les adversaires des chrétiens étaient les Almoravides, qui avaient pris le pouvoir. Mais dans le territoire où va aller Gisle Bertus, ce sont des Taïfas. Les Taïfas, ce sont des petits roitelets, maures, musulmans, vont être à leur tour dominés par les Almoravides, et certains d'entre eux vont s'allier d'ailleurs aux troupes chrétiennes. On a l'impression au Moyen-Âge qu'il y a vraiment deux blocs, les chrétiens et les musulmans, mais on a vu en Asie mineure, on a fait des chrétiens qui s'alliaient aux musulmans, et là on a des musulmans qui s'allient éventuellement aux chrétiens. À l'époque, on se battait, on se disputait, il y avait la religion, mais il n'y avait pas que ça.
Et même Abélard avait pensé un temps se réfugier auprès peut-être d'une protection musulmane.
Oui, il écrit quand il était... Ben, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs qu'il aille en Espagne, parce qu'il avait pensé y aller, il voulait disparaître, il était inquiet, il avait tellement d'ennemis, et il se dit là-bas personne ne me connaîtra, je serai tranquille et je demanderai la protection religieuse des mouftis, des musulmans.
L'étrange pèlerinage d'Abélard, Régis Le Bertus, c'est le titre du dernier roman de Bernard Moreau-Gaudry. Nous revenons, nous parlerons encore un peu des miracles, de pierres miraculeuses, juste après la pause musicale que nous vous offrons. On se retrouve, bien évidemment, avec notre invité. Je rappelle, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio.
Mamselle de machin chouette s'est mise sur 131 pour aller courir les cœurs dans les bars chics de Saint-Germain. Mamselle de machin chouette a passé l'âge d'attendre, et dès qu'elle franchit le pas du premier bar venu, au premier venu, elle dit: prends un petit verre, mon grand coquin, il est pour moi, si je suis pour toi. Prends-moi vite avant que je ne t'attrape, tournons ensemble jusqu'au matin. Prends un petit verre, mon grand coquin, tu sais que t'es bon à en crever. Et si je crève, je veux commenter où sont les hommes et le bon vin. Même celle de machin chouette s'est couverte de bijoux pour cacher que ses seins pendent comme les poids d'une horloge. Mamselle de machin chouette voit bien que tout le monde rigole quand elle en prend un sous le bras, vend ses qualités pour lui vendre son cœur. Prends un petit verre, mon grand coquin, il est pour moi, si je suis pour toi. Prends-moi vite avant que je ne t'attrape, tournons ensemble jusqu'au matin. Prends un petit verre, mon grand coquin, tu sais que t'es bon à en crever. Et si je crève, je commenterai où sont les hommes et le bon vin. Mamselle de machin chouette ne sortira plus le soir, paraît qu'elle a bu un verre de trop. Pauvre vieille, va. Comment elle s'appelait déjà? Mamselle.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons notre invité Bernard Moreau-Gaudry pour son roman L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gisle Bertus. Un roman très riche, je l'ai dit, avec Abélard, Gisle Bertus, Mélisande. Et puis il y a un quatrième qui les rejoint dans ce pèlerinage, qui les voit se déplacer, pour faire simple, hein, de Cluny et d'aller vers le sud, Saint-Gilles, dans le Gard, et puis ensuite, ils se déportent un peu vers l'Espagne, un peu sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, d'où cet étrange pèlerinage. Vous avez inventé un personnage monstrueux qui, le pauvre, a été chassé par sa femme et ses enfants.
Oui, parce qu'il a une maladie absolument épouvantable, qu'on connaît maintenant, c'est une maladie génétique. En fait, il a une déformation de la peau, il a des protubérances partout sur le visage, les mains, les doigts deviennent totalement difformes, les pieds aussi, il a beaucoup de mal à marcher, et il est horrible, complètement avec des viscosités sur le visage, des purulences, enfin c'est affreux.
Et en même temps,
c'est une bonne âme, c'est un personnage.
C'est votre Quasimodo, c'est le Quasimodo de, oui, Bernard Moreau-Gaudry, voilà, un peu.
Il est charmant, il est très gentil. Mais...
et il a des talents aussi. Alors, évidemment, parce que Abélard est poursuivi, pourchassé, on veut sa mort. Abélard s'unit avec Gisle Bertus, Mélisande et notre fameux Lambremont, que vous appelez l'homme-arbre. Il faudrait lire, d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais lire la description très réussie que vous faites de cet homme déformé, desquamé.
Oui, c'est l'épidermodysplasie virusiforme, oui, au niveau scientifique. Ça existe. Il y en a encore à notre époque, ouais, mais...
Et donc, nos quatre personnages s'unissent, changent leur identité, créent des costumes et vont devenir former une troupe de troubadours s'arrêtant d'abbayes sur des parvis de cathédrales et donnent des spectacles plutôt religieux. Mais ce qui est merveilleux, c'est chacun trouve sa place dans ces spectacles et qui vont les mener jusque dans l'Espagne de la Reconquête.
Oui, il traverse tout le sud de la France et il leur arrive plein d'aventures.
Alors ce qui est magnifique, c'est que bien sûr, il y a des attaques de brigands, il y a la peur la nuit, les chemins sont incertains, il y a des contraintes, la peur d'être connu. Est-ce qu'on va réussir à séduire un public? Si c'est un public un peu lourdeau de soldats sanguinaires, est-ce qu'on va réussir à les toucher avec nos poésies? Il faut dire qu'Abélard continue, lui, à inventer des hymnes, des textes, alors, profanes et religieux, en fait. Plutôt ben, religieux,
oui, à cette époque-là, c'est religieux. En fait, il pense toujours à Héloïse, qui est devenue abbesse d'un monastère, et il écrit pour elle des hymnes. Il va en écrire 133. C'est-à-dire, il fait à la fois le texte, ce sont des poèmes, et certains sont des poèmes magnifiques, et la musique. Et il va renouveler d'ailleurs la musique de l'époque, c'est de la musique grégorienne, mais lui, la musique grégorienne est très monotone, et lui, il va essayer que la musique exprime ce qu'il y a dans le texte, c'est-à-dire de joindre beaucoup plus texte et musique.
Et alors, évidemment, on suit leurs aventures, mais ce qui est merveilleux aussi, Bernard Moreau-Gaudry, ce que vous avez parfaitement réussi, c'est cette découverte de cette France du Moyen-Âge, de Cluny vers le sud, avec de grandes étapes dans des hauts lieux de pèlerinage, alors qui aujourd'hui le sont peut-être un peu moins, encore que certains demeurent des villes sanctuaires. Je pense à Le Pouy Notre-Dame. Alors c'est le nom du puits en Velay, siège épiscopal, où là il y a une pierre des fièvres. Un petit mot sur cette pierre des fièvres, Bernard Moreau.
Alors c'est une pierre, c'était un dolmen à l'origine, et puis les Gaulois en ont fait une pierre sacrée, enfin, il y a tout un tas d'aventures. Il y avait un temple dédié au dieu Cernunnos, le dieu qui avait des cornes de cerf et qui représentait les cornes chaque année, donc c'est un dieu de la résurrection aussi. Et puis plus tard, au VIe siècle, il y a une femme qui a rêvé, qui était très malade, et qui a rêvé que la Vierge Marie venait vers elle et lui demandait de se rendre sur la pierre. Donc elle s'est rendue sur la pierre, et là, elle aurait été guérie. Et à partir de là, eh bien, on a dit c'est un miracle, et on a construit sur le mont Corneille. Corneille, ça vient de Cernunnos, le dieu gaulois. Donc on a construit la fameuse église du Puy, quoi.
Et puis il y a aussi les eaux miraculeuses
et donc
de Saint-Antonin.
On pensait que se coucher sur cette pierre, qui a été longtemps un hôtel, puis après ils l'ont enlevé. Si on se couchait sur la pierre, on était guéri des fièvres. Saint-Antonin, c'est une légende aussi très intéressante. Saint-Antonin, bon... Il y avait des hérésies à l'époque, et on le scie en deux. Et on jette ces morceaux, les deux morceaux du corps, dans la rivière. Les anges apparaissent, ils assèchent la rivière, ils récupèrent donc les deux morceaux du corps, on met les deux morceaux dans une barque, et la barque à contre-courant remonte rivière et plus rivière, et arrive jusqu'à Saint-Antonin-Nobleval, où la barque s'arrête, et il va y avoir un culte avec des eaux miraculeuses, même chose, qui guérissait des fièvres. Il y a des milliers d'histoires comme ça, qui sont des histoires extraordinaires. C'est une époque de merveilleux, quoi.
Alors, moins merveilleux, par exemple, c'est la survivance de certaines traditions. Par exemple, la faïda des Francs. Alors, ça peut être assez terrible, en fait.
La faïda des Francs, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si on crève l'œil de quelqu'un, on lui crève l'œil. Mais les Francs étaient quand même un peuple peut-être plus rationnel qu'il ne paraît. On pouvait racheter sa peine. On pouvait donner trois vaches pour un œil crevé. Mais la théorie, c'est œil pour œil, dent pour dent.
Hein, oui, c'est la scène où Mélisande manque d'être violée par un homme qui finalement offre sa jument,
rachète sa faute en offrant quelque chose. Oui, oui.
Et ça, c'est très intéressant.
Oui, c'est une autre vision de la justice, quoi. On avait déjà les lois romaines, etc. Mais en même temps, survivait à cette époque-là compliquée, survivait cette idée de faïda, quoi. De toute façon, l'idée du rejet, du rachat des fautes, c'est quelque chose. Les pèlerinages, les gens partaient en pèlerinage parce qu'ils avaient commis une faute. Et s'ils allaient sur la route vers un sanctuaire religieux, eh bien, ils pensaient qu'ils étaient guéris de leur faute, quoi, de leur péché.
Bernard Moreau-Gaudry, nous sommes au terme de cette émission Wagon Livre. Merci à vous d'être venu d'Autun en cette fin de matinée devant notre micro pour parler de votre dernier roman, L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gisle Bertus. Vous avez un autre livre alors consacré à Jeanne Barret. Alors voilà une femme aussi qui s'est travestie pour pouvoir partir à l'autre bout du monde, un peu comme votre Mélisande s'est travestie.
C'est très amusant. Hein, c'est une femme extraordinaire aussi, oui.
En tout cas, je rappelle L'étrange pèlerinage d'Abélard et Gisle Bertus de Bernard Moreau-Gaudry, que je salue et remercie. Bernard, je vous offre un livre paru aux éditions de Boré, un livre d'Alain Parayou qui a pour titre « Anthologie polissonne, petites histoires indécentes de la littérature ». Cela va vous plaire. Et je voudrais terminer avec un tout petit poème d'un libertin du XVIIe siècle, c'est Théophile de Viau.
Oui,
et comme ça touche un
beaucoup.
Peu à
oui,
la religion oui. et qu'il est beaucoup question de moines et d'abbés dans votre roman, voici ce qu'a écrit « Oh, on a le droit d'être polisson, et puis dans une semaine, c'est le printemps des poètes.
Absolument.
Libérons-nous.
Absolument.
Un gros abbé se laissait en sa couche tâter le vis aux mains d'une nonain. Mais son engin demeurait sous la main, sans se mouvoir tout ainsi qu'une souche. Cette nonain, qui n'avait point de trêve, voyant ce vis demeurer aussi plat, lui dit « Monsieur, dites magnificat !» Quand on le dit, tout le monde se lève. Voilà, mon cher Bernard, c'est pour vous. Et je rappelle votre étrange pèlerinage d'Abélard et Gisle Bertus à partager avec Luce. Je vous remercie, Bernard Moreau-Gaudry. Bon congé de fin de semaine à nos auditrices et auditeurs. Retrouvez l'émission, bien sûr, en podcast. Et puis, rendez-vous samedi prochain, 12 mars, toujours à 11h sur Radion.
Au revoir. Très belle émission.
Merci, Bernard.